Alors, comme la journée a été longue et chargée, je ne vais pas être trop long. Quitte à faire une suite demain soir, nous avons eu une entrevue au sommet avec le père Marie-Alain. Et on fera peut-être ça. Alors, je voulais parler ce soir de la rédemption dans les écrits johanniques. Alors, évidemment, c'est un sujet pour lequel je ne suis pas tout à fait le mieux placé pour le traiter, mais ce n'est pas très grave. Et je vais vous lire une phrase du père Bouillet qui dit « La notion de rédemption comme telle n'est jamais formulée directement dans les écrits johanniques, mais simplement dans l'Apocalypse, l'idée que Jésus nous a acquis par son sang. » Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a vu ce matin. « Tu es digne, tu nous as acquis. » Donc je vous redis cette phrase. « La notion de rédemption comme telle n'est jamais formulée directement dans les écrits johanniques. » C'est le genre de phrases qui vous font réagir, qui vous donnent envie d'en avoir le cœur net. Alors, ce qui veut dire, on voit bien ce qu'il veut dire, c'est que quand vous regardez une concordance, c'est-à-dire un livre dans lequel sont classées toutes les occurrences des termes dans la Bible, vous n'avez rien dans l'évangile de Jean, dans la première épître, quant à tous les mots qu'on a vus ce matin, apô, lutrosis et la ribambelle. Donc, vous ouvrez une concordance et vous la refermez en disant la rédemption, avec cette idée de rachat, tous les mots liés à rachat ne sont pas dans les écrits johanniques. Alors, au-delà des mots, quelle est la manière dont Jean nous présente ce qui est quand même au centre de l'économie divine? Donc, ça serait étonnant que Jean n'en parle pas. Mais effectivement, c'est une manière sans doute très originale dont il en parle. La première chose qu'il faut affirmer tout de suite, c'est que la lumière dans laquelle il regarde l'œuvre de la rédemption, ou plus exactement, si on veut éviter le mot rédemption, qui donc n'existe pas comme tel, sinon dans l'Apocalypse, on l'a vu ce matin, donc la lumière dans laquelle l'œuvre du salut, parce que le mot salut, là, il est bien dans Jean, la lumière dans laquelle cette œuvre du salut est regardée, c'est l'amour, et l'amour de Dieu. Donc vous voyez que là, tout de suite, on est au contact de quelque chose qui va être assumé par la théologie mystique. C'est, je vous ai dit ce matin, que la théologie mystique, dite mystique, reprend tout du côté de cet amour de Dieu qui est un amour éminemment personnel et qui implique des personnes. Mais il y a également un contenu que l'on peut regarder du point de vue de l'économie divine. Quand Jean nous introduit au mystère du salut, il nous y introduit par la considération de l'amour de Dieu. Alors ça, c'est le fameux texte de Jean 3, 16. Bien connu, que je vous lis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils, l'unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous voyez que là, Jean rebondit à sa manière habituelle. Il a dit au verset 15, pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Et on a l'impression que, vous voyez, les mots font tilt, et il rebondit en disant, cette source de cette fécondité de la foi qui aboutit à la vie éternelle, c'est l'amour de Dieu, l'agapé. Qu'on a traduit par charité. Caritas, charité. L'amour divin, l'amour dans sa qualité proprement divine. Donc l'amour de Dieu est la cause propre pour Jean de ce don du Fils. Qui est le Fils unique. Alors ça, c'est une référence évidemment au prologue. Le prologue qui est une espèce de charte préliminaire sur laquelle le reste de l'évangile glose. Et vous avez l'expression Fils unique à deux reprises. Le prologue, donc le début de l'évangile, vous trouvez Fils unique en Jean 1, 14. Et le Verbe est devenu chair et il a séjourné parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle que tient de son Père un Fils unique, plein de grâce et de vérité. Donc Jean 1,14, c'est l'affirmation de l'incarnation, c'est-à-dire que la seconde personne de la Trinité, la personne éternelle du Verbe, qui est la personne du Fils, assume une âme humaine et un corps humain. Et reçoit la gloire du Père. Vous l'avez aussi en Jean 1, 18, la même expression Fils unique. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Un Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père, celui-là l'a fait connaître. Donc c'est cette place unique du Fils. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est un peu particulier par rapport à ce qu'on a vu ce matin sur l'Apocalypse. C'est cette place unique du Fils qui reçoit tout du Père éternellement, dans une intimité avec le Père que Jean symbolise par l'expression qu'il est dans le sein du Père, avec un accusatif qui montre un dynamisme dans cette relation. Il est dans un mouvement éternel vers le Père. Et du coup, cela lui permet d'être le grand révélateur, celui seul qui nous révèle le mystère du Père. Dans cette unité, pourra-t-on préciser, dans cette unité du Père et le Fils, il y a la source de cette révélation qui se fait pour nous du mystère de Dieu dans le Fils, dans le Verbe, incarné dans le Christ. Alors, ça, c'est ce que dit le prologue. Et Jean 3,16 reprend l'expression Fils unique, mais en marquant le don que Dieu fait de son Fils. Par amour. Vous voyez que il n'y a pas à proprement parler là une distinction entre l'incarnation et la rédemption. Il y a une unité prise dans le don qui est un don d'amour du Fils. Et ce don d'amour du Fils qui est uni au Père a comme aboutissement cette révélation du mystère du Père, mais il faut un petit intermédiaire, la foi. Dieu a en effet a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous voyez, il y a ce don du Fils unique. Or, le Fils unique, c'est lui seul qui peut nous révéler le mystère du Père, et nous rentrons dans cette volonté de Dieu de se révéler à nous dans le Christ par la foi. Et cette foi, elle est rédemptrice, même si le mot n'y est pas, la réalité est bien là, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas. Donc vous voyez, c'est là où on pourra, si on est un peu schématique et grossier, on dira une vision intellectualiste. C'est la foi qui me dira, précisera saint Thomas, qui m'oriente, qui est nécessaire pour m'orienter vers la vision béatifique, c'est-à-dire vers la vision du mystère de Dieu, et à laquelle seul le Christ me fait parvenir. C'est la foi qui me sauve, cette foi qui a ce contenu obscur encore pour moi, mais qui un jour débouchera sur la vision du mystère de Dieu que le Christ me révèle, ici-bas dans la foi, au ciel, dans la vision. Mais il faut faire attention que Jean ne s'arrête pas là. Il ne dit pas que pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc vous voyez que il y a l'amour de Dieu qui donne le Fils unique. Et le Fils unique, on a vu cette place unique qu'il a. Et ce don est finalisé quant à nous pour que par la foi, nous parvenions au salut. Qui n'a pas un contenu simplement de connaissance, mais qui est marqué par le terme « vie éternelle ». Alors, si je continue au verset 17, « Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc, vous voyez que là, vous avez le mot même du salut. Alors, vous retrouvez ça dans la première épître de Jean. En Jean 1, Jean 4, 8 jusqu'à 14, à peu près. Pour vous montrer cette lumière première que donne Jean, l'amour de Dieu. Donc c'est la fameuse affirmation à la fin du verset 8. Dieu est amour. En cela s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils. C'est plus le don, c'est l'envoi. Et à nouveau l'expression son Fils, l'unique. Donc vous voyez que tout se tient. La force de cette affirmation, elle se prend du prologue où Jean nous montre cette place unique du Verbe qui est Dieu, qui est au commencement, qui est tourné éternellement vers le Père, qui reçoit tout de lui, et qui, par cette place, donc, peut jouer le rôle du révélateur par excellence, de celui qui nous explique le Père. Dieu a envoyé son Fils l'unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc, vous voyez, on retrouve Dieu est amour. C'est plus Dieu qui a aimé le monde, c'est Dieu, il est lui-même amour. C'est plus le don, mais l'envoi. Ça revient évidemment même. Et toujours l'aspect de cette finalité qui est tout de suite affirmée et qui ici est reprise du côté de la vie. Mais ce n'est plus la vie éternelle, c'est nous vivions par lui, par le Fils unique. Donc, vous voyez, il suffit de mettre les choses en parallèle. Cette vie éternelle, elle consiste à vivre par le Fils. Je reviendrai là-dessus. Je continue là. En cela est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Ça vous rappelle quelque chose? Les déclarations de Dieu dans l'Ancien Testament, où il montre qu'il agit pour Israël, non pas en vertu des vertus d'Israël, mais lui, en considération de lui. J'efface vos forfaits, dit-il en Ézéchiel, à cause de moi, en Isaïe, je veux dire, à cause de moi. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Vous avez donc là l'expression « victime de propitiation ». Sans regarder l'expression elle-même, gardons l'idée. Il y a une manifestation particulière de l'amour de Dieu dans cet envoi du Fils comme victime pour les péchés. Pensez à Isaïe 53, au serviteur souffrant. Ça, saint Thomas l'a repris et montre qu'il y a une miséricorde plus abondante de la part de Dieu dans le fait d'avoir remis les péchés eu égard à la médiation du Christ. Il y a une manifestation particulière de l'amour de Dieu pour la créature et pour l'homme dans le fait d'avoir permis à un homme, l'homme Jésus, de satisfaire pour les péchés. Ça, c'est la doctrine constante de saint Thomas qui montre que dans l'économie divine ou dans le gouvernement divin, il y a une perfection particulière du gouvernement divin, c'est-à-dire de la manière dont Dieu concrètement gouverne toutes les réalités créées. La perfection de ce gouvernement divin, elle se prend de la communication à certaines créatures de la dignité de cause. Dieu ne fait pas simplement des créatures et il cause tout directement. Il fait que certaines de ces créatures sont élevées au rang de cause et de cause de bonté chez les autres. Pensez aux parents par rapport aux enfants, aux maîtres qui enseignent, etc. C'est des exemples que prend saint Thomas. Et là, il y a une application particulière de cette loi générale du gouvernement divin qui fait que donc Dieu multiplie les intermédiaires du point de vue de la causalité, enfin des intermédiaires, disons qu'il élève des créatures à ce rang d'être cause, il y a une application particulière dans le mystère de la rédemption, où il y a une miséricorde particulière à donner au Christ comme homme une causalité pour la rédemption, pour le salut, sur laquelle causalité que saint Thomas va, sur laquelle il va s'interroger, vous voyez. Et donc ça, en fait, c'est une glose sur ce que nous dit là Jean. En cela est l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Alors, propitiation, quand même un mot. Propitiation, ça vient de propitiatoire. Propitiatoire, c'est le couvercle de l'Arche d'Alliance. Couvercle de l'Arche d'Alliance sur lequel le grand prêtre, le jour des expiations, dans le rituel juif, versait du sang. C'était le jour des expiations, et on versait du sang sur ce couvercle qui était appelé donc propitiatoire. Et donc, le propitiatoire est devenu là l'image de cette victime d'expiation. Et enfin, verset 14, nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde, par amour. Et donc, vous voyez bien que notion de la rédemption n'est pas absente des écrits joaniques. Alors, sauveur du monde, c'est quelque chose que les Samaritains diront à la Samaritaine à la fin dans l'Évangile, au chapitre 4. Ils diront, et maintenant nous savons bien qu'il est le sauveur du monde. C'est un titre que l'on trouve chez Jean pour le Christ. Vous l'avez au verset 19, cette considération de l'amour, toujours de la première épître de Jean au chapitre 4. Pour nous aimons, puisque lui nous a aimés le premier. Alors ça, c'est à mettre en parallèle avec ce que dit saint Paul. C'est toujours très intéressant de comparer saint Jean et saint Paul sur des thèmes similaires, parce qu'il y a toujours une petite inflexion, une petite différence. Vous trouvez le parallèle chez Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, les versets 6 à 8. Donc Paul dit, oui, quand nous étions encore faibles, c'est alors autant voulu que Christ est mort pour les impies. À peine, certes, voudrait-on mourir pour un juste, pour un homme de bien, oui, peut-être oserait-on mourir. Évidemment, l'homme de bien, par excellence, c'est le Christ, pour lequel on ose bien mourir. Mais Dieu confirme ainsi son amour envers nous. Ah, donc ça, c'est le même regard. C'est quand nous étions encore pécheurs que Christ est mort pour nous. Donc ça, c'est tout à fait parallèle à ce que dit Jean dans la première épître. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Lui nous a aimés le premier. Donc sur le fond, évidemment, Pierre et Jean disent la même Paul et Jean disent la même chose. Mais vous remarquez que Jean ajoute quelque chose à Paul, ici. C'est l'explicitation de la finalité. C'est-à-dire que Jean ne dit pas cela sans dire tout de suite « afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que nous vivions par lui. » Vous voyez, Paul a un regard, entre guillemets, hein, parce qu'il ne faudrait pas dévaluer Paul, mais juridique. Et vous le voyez bien quand il dit « Christ est mort pour des impies. » Et puis il raisonne sur la catégorie juste, homme de bien ou impie. Donc, et il met en lumière par là l'inouï du don d'amour. C'est pas ça qui intéresse Jean ultimement, c'est qu'est-ce que cherche Dieu pour nous, quant à ce don d'amour qu'il nous fait dans le Fils. Alors, c'est pour ça que si on veut regarder la rédemption chez Jean, je crois qu'il faut diviser en deux. Il faut regarder l'acte lui-même. Qu'est-ce que dit Jean de l'acte de rédemption? Ce qu'il est et son efficacité. Et puis ensuite, il faut regarder la finalité de la rédemption, la véritable finalité pour Jean de la rédemption. Donc, vous avez fatalement les deux regards, qui seraient aussi chez Paul. Hein. Mais chez Jean, il y a une espèce de conjonction très particulière entre les deux regards. On trouve, si vous voulez, chez Jean, ce qui est tout à fait particulier, c'est qu'on trouve dans la même phrase réunie une espèce de synthèse de tout ce que Dieu réalise dans ce dessein de salut, à partir de son amour éternel, jusqu'à la manière dont moi je participe à sa vie. Et vous ne trouvez pas du tout la même synthèse chez Paul, sous la même forme, hein. Donc ce que je voudrais distinguer, donc c'est les deux aspects que Jean manifeste le lien, c'est l'acte lui-même de rédemption. Ce qu'il est, sa nature, si vous voulez, son efficacité. Et puis quelle est pour Jean la finalité véritable de cette rédemption ?
Alors, on l'a déjà un peu vu, mais on peut le regarder un peu plus. Alors, c'est que des pistes, hein, parce qu'évidemment, il faudrait, pour regarder Jean, avoir la vision béatifique, en gros. Donc, si on prend l'acte de Jésus lui-même, je vais partir des textes qu'on a eus il y a une semaine ou deux à la messe, dans le chapitre 10. Jésus dit, verset 11, 15, donc je suis là. Dans ma traduction, moi, je suis venu pour que l'on... Non, c'est pas ça du tout. Moi, je suis le berger, le bon berger. Le berger, le bon berger, livre sa vie pour les brebis. Et au verset 15, comme le Père me connaît, que moi je connais le Père. Bon, ça c'est la fin du verset précédent. Et je livre ma vie pour les brebis. Alors, là, c'est traduit, livrer la vie, c'est comment dans la Jérusalem? Je donne ma vie. Le verbe... qui est utilisé là par Jean, là encore c'est pas inintéressant, signifie proprement poser. C'est le verbe titénaï. Donc le sens. Et en plus, pour vie, vous avez psyché, l'âme. Donc le sens, c'est que Jésus dépose son âme pour ses brebis. Il offre son âme. Vous voyez le geste de poser, qui est très expressif quand on le symbolise par un geste. Il met devant son âme pour ses brebis. Donc ce verbe n'est pas gratuit, fortuit. Il fait image. Et il montre comment Jésus offre sa vie exactement comme on dépose une offrande pour un sacrifice. Si vous voulez, c'est pas normal de dire je pose ma vie. C'est pas une expression grecque courante. Et donc, voyez que par cette image, qui avec la force de ce verbe, Jean implique que la mort de Jésus est un sacrifice. Donc ça, c'est intéressant par rapport à tout ce qu'on a vu. Et ce qui est intéressant, c'est que cette phrase qui a l'air de rien montre que Jésus est à la fois le prêtre, c'est lui qui dépose, c'est lui qui pose, et qu'il est à la fois la victime parce que qu'est-ce qu'il dépose? C'est son âme. Donc vous avez là un acte à la fois sacerdotal et victimal. Donc vous voyez, par rapport à ce qu'on a explicité dans les médiations de l'Ancien Testament, vous avez tout de suite l'union de deux types de médiations très particulières, la médiation du prêtre, du grand prêtre, et la médiation sacrificielle de la victime. Rien qu'à partir d'une petite phrase, Jean nous le montre. La valeur de ce sacrifice vient de sa qualité volontaire. Là, vous l'avez au verset 17 et 18. Voilà pourquoi le Père m'aime. Parce que moi, je livre ma vie, je dépose mon âme pour la reprendre. Au verset 18. Personne ne me l'enlève, mais moi, je la livre de moi-même. C'est un choix de Jésus. J'ai pouvoir de la livrer, j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Donc vous avez un choix dans l'obéissance, un choix libre et volontaire dans l'obéissance. Donc ça ne s'explique que par un amour. Votre obéissance, elle n'est pas volontaire quand elle se fait contrainte et hors de l'amour. Elle devient volontaire et libre quand vous la faites par amour. Donc, cette mort sacrificielle, dont Jésus est à la fois le grand prêtre et la victime, c'est une mort d'amour dans l'amour du Père, et c'est un acte volontaire et d'obéissance. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'on retrouve la même expression dans le chapitre 13, dans la prétention de Pierre à donner sa vie. Et cette exclamation de Pierre qui dit en Jean 13, 37-38, qu'il est prêt à déposer sa vie. Et on voit où cela va. Mais avec plus de fécondité, on la retrouve pour Jésus au chapitre 15, verset 13, où là, le Christ explicite le contenu d'amour de ce geste sacrificiel. Jésus dit, personne n'a de plus grand amour que celui qui dépose sa vie, toujours le même verbe, pour ses amis. Vous retrouvez ça dans la première épître, en 1 Jean 3,16. En cela, nous avons connu l'amour, c'est que celui-là a livré sa vie pour nous. Vous voyez que tout insiste, et c'est toujours la même expression, tout insiste sur le don d'amour, sur l'amour qui porte ce geste. Donc on retrouve bien cette lumière que Jean donne dès l'abord, sur laquelle on a insisté en début. Vous avez des parallèles chez saint Paul, hein, évidemment. Mais vous n'avez pas le même verbe, titénaï. Donc vous n'avez pas la même image de cette offrande pour un sacrifice. Donc vous avez, chez saint Paul, saint Paul va utiliser des termes qui sont sur le don. Tout insiste sur le don que Jésus fait de lui-même. Mais don, vous voyez, c'est large. Alors que Jean particularise en vous donnant l'image du don que l'on fait dans un sacrifice, dans une offrande pour un sacrifice et une immolation. Ça, c'est cet aspect sacrificiel. Le second aspect sur lequel Jean donne une lumière, c'est l'aspect de ce qu'on a appelé en théologie l'aspect de la satisfaction pour les péchés. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est le sacrifice dans l'amour. Puis donc l'aspect maintenant de satisfaction, je satisfais pour les péchés. Alors ça, vous l'avez dans la première épître de Jean, en 1 Jean, au chapitre 2, verset 2. On retrouve l'expression qu'on a vue tout à l'heure de victime de propitiation. C'est quoi dans Jérusalem? Comment il traduit victime de propitiation? Victime de propitiation. Alors, donc Jean dit de Jésus, il est lui-même victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, le terme grec qui est là traduit par victime de propitiation, hilasmos, ça veut dire expiation. n'est pas exactement le même terme que propitiatoire, qui est le ce que je vous disais tout à l'heure, couvercle. Ça, Paul utilise ce terme de propitiatoire en Romains 3, 25. Voyez, vous commencez, ça commence au verset 24. Ils sont justifiés gratuitement par sa grâce en vertu du rachat qui est en Christ Jésus, que Dieu a exposé comme instrument de propitiation par son sang moyennant la foi. Et l'instrument de propitiation, c'est le propitiatoire. Donc, l'image de Paul, c'est Dieu a pris Jésus et l'a exposé comme propitiatoire, comme quelque chose propitiatoire. Évidemment, en français, ça vient de « qui rend propice ». Mais ce n'est pas exactement le même verbe. Là, propitiatoire, ce n'est pas le même mot, je veux dire. Propitiatoire, ilasterion, ça c'est vraiment le couvercle. Tandis que là, vous avez ilasmos, qui est l'acte même d'expiation, de se rendre propice par un acte expiatoire. Et donc, Jean nous dit que Jésus lui-même est expiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc là, vous avez le sens. Vous savez, ce matin, on a dit souvent, quand on tombait sur des expressions comme « beaucoup », ça n'excluait personne. Et donc, cette universalité du salut, elle est affirmée là par Jean. L'expiation que Jésus incarne, vous voyez, expiation, dire que Jésus est expiation, ça fait, c'est le même genre d'expression que je suis la résurrection. Jésus, c'est l'expiation. Il n'est pas simplement celui qui expie, mais c'est l'expiation. Ça veut dire que toute expiation n'a de valeur qu'en Jésus. Alors, saint Thomas, petite Nota Bene, cite cette phrase de saint Jean pour expliquer que la satisfaction dans la passion du Christ, elle n'est pas simplement suffisante pour tous les péchés. Elle est surabondante. Il y en a plus que tous les péchés. Il y a une satisfaction plus grande que pour tous les péchés qui pourront être commis. À cause de la grandeur de l'amour du Christ, de cet amour qui a porté son sacrifice. Voilà, première raison que donne saint Thomas. À cause de la dignité de sa vie, c'est la vie d'un Dieu et d'un homme. Ce qu'on a vu avec le prologue, le Verbe qui s'incarne. Et enfin, en raison de la généralité de sa passion et de l'intensité de la douleur qu'il assume, qui va jusqu'à la blessure du cœur. Donc, c'est toujours fécond de faire interférer la lecture de saint Jean et l'étude de saint Thomas d'Aquin. Vous avez là une source de lumière réciproque, je dirais, qui est très impressionnante et qui fait comprendre ce que dit parfois le père Philippe quand il dit qu'il y a une lignée de théologiens à la suite de saint Jean, et dedans, évidemment, il met saint Thomas d'Aquin. Saint Augustin, saint Thomas d'Aquin. Il y a dans l'Église une espèce de tradition qui a su s'affronter à saint Jean. Saint Thomas d'Aquin est dedans. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a aimé vraiment saint Jean et qui n'aime pas saint Thomas d'Aquin. Alors, ce que nous avons vu là, c'est exprimé par Jean-Baptiste, par sa fameuse phrase, quand il désigne Jésus au début de l'Évangile, par la phrase « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Donc ça, c'est dans le premier chapitre de Jean. Vous voyez pourquoi c'est étonnant quand on dit qu'il n'y a pas la rédemption dans Jean. C'est Jean 1, 29. Alors la phrase, on la connaît par cœur. Mais elle exprime deux choses. On retrouve l'aspect sacrificiel, l'agneau de Dieu. Et puis l'aspect d'efficacité. L'expression agneau de Dieu, elle est unique à Saint Jean. On la retrouve en Jean 1,36 et puis c'est tout. C'est simplement Jean-Baptiste qui... Enfin, on répète l'expression de Jean-Baptiste. Alors, le mot agneau... Nous, on est complètement habitués à cette phrase. Hein. Mais elle a... vous voyez, sans recourir même à ce que l'on dit, c'est-à-dire qu'en araméen, c'est le même mot agneau et serviteur. Donc si la phrase était prononcée en araméen, on ne pouvait pas discerner. Et serviteur, évidemment, ça fait référence au chant du serviteur. Mais en restant au grec, et en ne tombant pas dans les conjectures sur la langue dans laquelle Jean-Baptiste a parlé, ce qui devait être araméen d'ailleurs. C'est amnos. Ce terme grec. Et par ce thème de l'agneau, on retrouve donc tout le symbolisme biblique qu'on a un peu exploré cet après-midi. Ce n'est pas le même terme, amnos, que ce qu'on a vu dans l'Apocalypse, l'agneau égorgé. C'est un autre mot. Dans l'Apocalypse, et c'est encore plus beau, c'est un terme qui veut dire le jeune agneau. C'est le petit agneau, arnion. Donc dans Apocalypse 5, je ne sais pas combien... 6. Et que Jean utilise une fois à la fin de l'évangile, quand il dit à Jésus, à Pierre, enfin quand Jésus dit à Pierre, paie mes agneaux, c'est Arnion, paie mes petits agneaux. Jean 21, 15. Alors, si, vous voyez, pour essayer de comprendre quel sens pouvait avoir cette expression, quel poids pouvait avoir cette expression pour un juif hellénisé, ce qui était le cas des juifs de l'époque. Dans son symbolisme biblique, l'expression renvoie évidemment à ce qu'on a vu de l'agneau pascal, de cette immolation liturgique. De l'agneau pascal, donc Exode, ce qu'on a lu cet après-midi, Exode 12, 5. Où on trouve le mot pour agneau dans les Septante, arnos, qui est le mot apparenté et qui est donné arnion comme diminutif. Du côté victimal de Isaïe 53, qui donc, Isaïe 53, qui manifeste, si vous voulez, le meurtre de l'innocent. Il est frappé pour les coupables, mais lui-même n'est pas coupable. C'est dans la version des 70, évidemment. Amos. Donc en Isaïe 53, vous savez, je vous avais signalé qu'on trouvait les termes de mouton, de brebis, de mouton qu'on mène à l'abattoir, de brebis qui est tendue et qui reste muette devant ceux qui la tondent. Alors cette brebis qui est muette devant ceux qui la tondent, c'est Amnos. C'est le même mot dans la version des 70. Donc la référence, voyez, la plus immédiate, c'est à Isaïe 53. Voici l'agneau de Dieu, pour celui qui connaît la 70, qui la connaît bien, c'est Isaïe 53, c'est le serviteur souffrant, cette brebis qui est muette alors qu'on est en train de la tondre. Je vous relis le verset.
C'est si aussi la rédemption, le 21 mai 1993, à Rimont, par le père Marie-Alain, première conférence.
J'espère qu'on vous a mis dans l'appétit. C'est un sujet un peu difficile. On est habitué à regarder le Christ. Mais la rédemption, ça a quelque chose d'un peu lourd. Alors à chaque fois dans nos sessions, on essaie toujours de regarder un texte du magistère pour, comme tout bon théologien, on essaie de se mettre à l'école de l'Église. Et avec vous, je voudrais lire quelques passages de l'encyclique, la première encyclique de Jean-Paul II, Redemptor Hominis. Je crois que vous n'allez pas avoir tous un exemplaire. On va essayer d'en rattraper tout à l'heure. Parce que je parais que vous êtes plus nombreux que 50, il n'y en a que 50 exemplaires. Donc si vous pouvez vous... Cette encyclique, le Saint-Père l'a dit... J'ai voulu exprimer ce qui a animé et anime continuellement mes pensées et mon cœur depuis le début du pontificat. Donc, il a sorti cette encyclique 6 mois plus tard. Ou assez vite. Donc, il était... Cela est en 79. L'encyclique contient les pensées qui avaient mûri en moi pendant les années de mon service sacerdotal puis épiscopal. Comme je vois et je sens le rapport entre le mystère de la rédemption dans le Christ Jésus et la dignité de l'homme. De même, je voudrais tant unir la mission de l'Église avec le service de l'homme. Et d'ailleurs, ce qui est très, très beau dans cette encyclique, c'est, vous le verrez vous-même, Redemptor Hominis, le Redemptor de l'homme. Et donc, si nous avons un tel Redempteur, combien est digne l'homme? Et donc, si l'Église doit poursuivre la mission du Christ, combien elle doit s'occuper de l'homme. Au fond, toute l'encyclique, et c'est pour ça que je crois que c'est bien pour nous qui allons rentrer dans la rédemption, c'est de découvrir avec le pape le regard que le mystère de la rédemption me donne sur l'homme, me demande d'avoir sur l'homme. Alors bien sûr, on va regarder la rédemption et son œuvre vis-à-vis de Dieu, toute la dimension de justice. Mais l'encyclique va surtout mettre l'Église dans le regard que Dieu a sur l'homme. De même que Dieu a pris l'humanité pour la sauver, de même l'Église, si elle est attentive aux signes des temps, doit s'occuper de l'humanité, de l'homme, l'homme concret, comme il dit. L'individu, tel homme, chaque homme, tout homme. Et puis, généralité, l'humanité, ça sort de temps en temps, mais c'est l'homme. Alors, je vous ai pas fait photocopier le premier chapitre, mais qui est intéressant, où il situe son ministère à la ligne dans la suite de Jean 23 et de Paul VI. Et c'est pourquoi il porte le nom de Jean-Paul. Il explique ça. Comme Jean-Paul Ier, il veut absolument poursuivre l'œuvre entreprise par Jean 23 et Paul VI. Cette œuvre, c'est le Concile. Et il insiste particulièrement sur l'Église, sur Paul VI. Et j'ai envie de vous lire un passage parce que pour ceux qui ont connu l'après-Concile, je veux dire, pas qui étaient en culotte courte, eh bien, c'est très très beau d'entendre ce qu'il dit à propos de Paul VI. Donc, en me référant aujourd'hui à Ecclesiam Suam, donc le premier document de Paul VI, le premier texte de Paul VI, qui fixait le programme du pontificat de Paul VI, je ne cesse de remercier Dieu, car ce grand prédécesseur, qui est en même temps un vrai père pour moi, a su, malgré les diverses faiblesses internes qui ont affecté l'Église dans la période post-conciliaire. C'est étonnant de voir comment l'Église est lucide. Elle est faite de pécheurs, on le sait, mais on l'oublie souvent. Manifester, donc, a su, malgré les épreuves qu'elle vivait, a su manifester ad extra, donc au monde, le visage authentique de l'Église. Alors que, à l'intérieur, il y avait ce bouillon de culture bien pénible, il a su donner au monde une image authentique, un visage authentique de l'Église. Ainsi, une grande partie de la famille humaine, donc à l'extérieur de l'Église, dans les différents milieux de son existence complexe, est devenue, à mon avis, plus consciente d'avoir absolument besoin de l'Église du Christ, de sa mission et de son service. Donc, même le monde, et c'est Paul VI qui a su le montrer avec ses voyages, et tout ça, même le monde attend le service de l'Église. Et alors c'est surtout pour ça. Cette prise de conscience s'est parfois montrée plus forte que les divers comportements critiques qui attaquaient ad intra, de l'intérieur, l'Église. Et donc, cette vitalité de Paul VI s'est montrée plus forte que ce mouvement critique ad intra. L'Église qui attaquait l'Église de l'intérieur, ses institutions, ses structures, les membres de l'Église, leur activité. cette critique croissante, c'est du présent. Cette critique croissante a eu évidemment des causes diverses, et nous sommes certains, d'autre part, qu'il ne lui a pas toujours manqué un authentique amour pour l'Église. C'est parce qu'on aime l'Église qu'on a critiqué. Sans aucun doute, s'est manifesté dans l'Église, entre autres, la tendance, s'est manifesté en elle, donc dans cette critique, la tendance à sortir du prétendu triomphalisme dont on avait souvent discuté pendant le Concile. Mais, s'il est vrai que l'Église, selon l'exemple de son maître, qui était humble de cœur, est fondée elle aussi sur l'humilité, qu'elle a le sens critique vis-à-vis de tout ce qui constitue son caractère et son activité humaine, qu'elle est toujours très exigeante pour elle-même, la critique, de son côté, doit avoir de justes limites. Autrement, elle cesse d'être constructive, elle ne révèle pas la vérité. L'amour et la gratitude pour la grâce dont nous devenons principalement et pleinement participants dans l'Église et par le Christ. Pas oublier ça, qu'on peut être exigeant pour l'Église, mais il faut faire attention que la critique ne détruise pas notre action de grâce et notre connaissance pour le mystère de l'Église. En outre, l'esprit critique n'exprime pas l'attitude de service qui est propre aux chrétiens, mais plutôt la volonté de diriger l'opinion d'autrui selon sa propre opinion, parfois proclamée d'une façon trop inconsidérée. Je trouve que c'est important d'entendre ce texte alors qu'il y a des années du pontificat et de voir au fond la force de Jean-Paul II dès le début de son pontificat. L'Église qui m'a été confiée n'est certainement pas exempte de difficultés et de tensions internes. Mais en même temps, elle est intérieurement mieux, grâce à Paul VI, prémunie contre les excès de l'autocritique. L'autocritique est bonne, mais maintenant elle est plus forte pour lutter contre ses excès. On pourrait dire qu'elle est plus critique en face des diverses critiques inconsidérées. Plus résistante devant les différentes nouveautés. Plus mûre dans l'esprit de discernement. Plus apte à tirer de son trésor du neuf et du vieux. Plus centré sur son propre mystère, et grâce à tout cela, plus disponible pour la mission de salut de tous. En relisant ça, je me suis dit que c'est quand même un passage qui est beau à lire aujourd'hui. Bon, mais c'est pas le sujet. Et je voudrais donc lire avec vous ce second chapitre surtout. On va le lire ensemble. J'espère que ce ne sera pas trop rude, mais il faut se mettre à l'école, donc il faut accepter de lire. Et ce que je voudrais, c'est que vous n'hésitez pas à arrêter. Parce que il a un langage, un vocabulaire qui est quand même un peu difficile. Un peu difficile. Il faut qu'on s'habitue, à force de le lire, on rentre bien dedans, que c'est très descriptif. Mais c'est vrai que au premier abord, c'est pas facile. Alors, ce numéro 7 du second chapitre est très important parce que au fond il pose la question dans ses clés. Il veut répondre à une question et donc cette question il va la poser. Les chemins sur lesquels le concile de notre siècle a engagé l'Église, et que le regretté pape Paul VI nous a indiqué dans sa première encyclique, ces chemins, donc, resteront pour longtemps ceux que nous devons tous suivre. Donc le Concile a ouvert une route. Mais en même temps, en cette nouvelle étape, nous pouvons à juste titre nous demander comment, de quelle manière faut-il avancer. Donc, avant de partir, il se pose la question, comment ? Que faut-il faire pour que ce nouvel avant de l'Église, lié à la fin, donc l'avant du retour du Christ, désormais très voisine du deuxième millénaire, donc que faut-il faire pour que ce nouvel avant nous rapproche de celui que la Sainte Écriture appelle le Père à jamais, donc de notre Père. Que faut-il faire pour que ce temps qui nous est donné nous rapproche de Dieu, du Dieu Père. Telle est la question fondamentale que le nouveau pontife doit se poser lorsque, en esprit d'obéissance dans la foi, il accepte l'appel que constitue pour lui le commandement du Christ adressé à plusieurs reprises à Pierre, « Paie mes agneaux », ce qui veut dire « Sois le pasteur de mon troupeau ». Et il avait rappelé, n'est-ce pas, la manière avec laquelle il avait répondu quand on lui a demandé « Acceptes-tu d'être pape ?» Alors, « Est-ce que tu acceptes ?» Alors, et il dit « J'ai alors répondu, obéissant dans la foi au Christ, mon Seigneur, mettant ma confiance en la mère du Christ et de l'Église, et malgré les difficultés si grandes, j'accepte. » C'est quand même un moment important de sa vie. C'est précisément ici, frères, fils et filles très chers, que s'impose une réponse fondamentale et essentielle, à savoir l'unique orientation de notre esprit, l'unique direction de notre intelligence, de notre volonté, de notre cœur, est pour nous le Christ rédempteur de l'homme, le Christ rédempteur du monde. Donc, l'orientation profonde avec laquelle le pape veut répondre, c'est le rédempteur, le Christ rédempteur. Dans le Christ, celui qui est venu sauver. Il le dit bien, c'est l'unique direction de notre intelligence, de notre volonté et de notre cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton intelligence, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de tout ton cœur, toute ton âme. C'est vers lui que nous voulons tourner notre regard, parce que c'est seulement en lui, le Fils de Dieu, que se trouve le salut. Et nous renouvelons la proclamation de Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc, vous voyez, c'est l'orientation de tout le pontificat, le Christ rédempteur de l'homme. À travers la conscience si bien développée par le Concile, que l'Église a d'elle-même. Il avait expliqué ce que Paul VI avait dit justement de cette conscience de l'Église. L'Église, donc grâce à l'action de Paul VI et du Concile, a une conscience toujours plus approfondie de son mystère. Parce que c'est vrai que quand vous regardez le premier document, Lumen Gentium, où au fond l'Église parle de l'Église. C'est un des premiers documents conciliaires sur le mystère même de l'Église. Donc elle a une conscience toujours plus approfondie de son mystère. Elle a regardé son mystère pour mieux le vivre. De sa mission humaine et même de ses faiblesses humaines. C'est cette conscience qui est et doit rester la première source de l'amour de cette Église. Il faut se connaître pour s'aimer. Il faudrait que l'Église se connaisse à la lumière de la révélation. Et c'est ce qu'il appelle donc cette connaissance qui permet d'aimer l'Église. Voilà ce qu'il appelle, n'est-ce pas, cette conscience. Cette conscience que l'Église a d'elle-même. Dans tous les domaines d'activité de l'Église, à travers cette conscience que l'Église a d'elle-même, à tous les niveaux de cette conscience, dans tous les domaines, nous devons tendre constamment vers celui qui est la tête de l'Église, le Christ. Celui de qui tout provient et par qui nous sommes, et pour qui nous sommes. Donc il cite l'Écriture. Celui qui est tout à la fois la voie, la vérité et la résurrection et la vie. Celui en qui, en le voyant, nous voyons le Père, cite saint Jean. Celui qui devait s'en aller d'auprès de nous, entendons par sa mort sur la croix et son ascension. Pour que le Consolateur vienne et continue à venir à nous comme Esprit de vérité. Donc, c'est lui que nous devons regarder. En lui sont tous les trésors de la sagesse et de la science. Et l'Église est son corps. L'Église est dans le Christ, et là il cite le Concile, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Et c'est lui qui est la source. Hein. Là, c'est une exclamation. Hein. C'est lui, lui-même, lui, le Rédempteur. Donc, alors, je passe, hein, je ne vais pas tout lire, mais quand même, dans le chapitre suivant, donc, il nous faut écouter le Christ. Mais pas, tout le monde écoute le Christ. Tout le monde écoute, pas seulement le chrétien qui écoute sa parole. Il dit aussi, même les non-chrétiens, ces paroles sont écoutées aussi par les non-chrétiens. Et même par ceux qui sont incroyants et qui ne sont pas capables de dire à Jésus qu'il est le Christ. Le Christ parle à l'homme. C'est ça qui est si beau. Lui, le Dieu vivant, il parle aux hommes en tant qu'hommes. Il ne parle pas simplement aux baptisés. Jésus est venu pour l'homme. Il n'est pas venu simplement pour les chrétiens. Il parle à l'homme. Et c'est ça que l'Église doit entendre. Parce que l'Église est pour l'homme. Elle n'est pas simplement pour le pratiquant. Non. Il parle aux hommes en tant qu'hommes. C'est étonnant de voir ça. C'est sa vie qui parle, son humanité qui parle, sa fidélité à la vérité, son amour, sa mort. Donc, Jésus parle à l'homme. Donc, ça, il faut donc faire connaître le Christ. Pas dans ses paroles seulement, dans sa vie, dans son humanité, dans sa fidélité à la vérité, dans son amour, dans sa mort et sa résurrection. Mais pour l'Église, elle, c'est plus, il faut revivre le mystère du Christ. Il ne faut pas simplement l'entendre. Pour l'Église, il faut le vivre, c'est ce qu'il ajoute. L'Église, elle, ne cesse jamais de revivre. Comment ? Par l'Eucharistie. Et le terme de l'encyclique, le chapitre 4, parle presque exclusivement de l'Eucharistie de la pénitence. pour, parce que une chose, ce que l'Église doit dire au monde, et autre chose, ce que l'Église doit vivre elle-même. C'est le chapitre 4. Elle doit accueillir elle-même ce Christ rédempteur. Et de cette manière-là, qui lui est propre, c'est le mystère des sacrements. Au monde, je dois... Sur le monde, je dois avoir le regard du Christ. Mais pour avoir le regard du Christ, il faut être un avec lui. Et pour être un avec lui, il faut vivre les sacrements. Alors, le chapitre 2, c'est le mystère de la rédemption et la lumière qu'il donne sur les hommes. Le chapitre 3, c'est ce que l'Église doit faire pour l'homme. Et le chapitre 4, c'est ce qu'elle doit vivre, elle, pour être capable de faire ça. Vie des sacrements. Alors nous, nous allons surtout nous intéresser au chapitre 2, mais vous êtes libre d'aller voir la suite. Si on peut, on avancera. Donc maintenant, je suis au numéro 8. Alors, il s'arrête sur une chose, il dit « Rédempteur du monde ». Ce n'est pas simplement de moi, ou de Jean, ou de Jacques. C'est du monde. Alors c'est le chapitre 8, le paragraphe 8, c'est ça. Le monde. Qu'est-ce que je dis quand je dis qu'il est rédempteur du monde? Alors, deux parties. Hein. Le monde, c'est la création tout entière, et au cœur de la création... Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Alors, d'abord, la création tout entière. En lui, s'est révélé. Alors, c'est très beau de voir ça. D'une manière nouvelle et plus admirable, dans le Christ, la vérité fondamentale sur la création. Pas facile comme langage. S'est révélé, donc a été manifesté dans le Christ, la vérité fondamentale sur la création que le livre de la Genèse atteste quand il répète à plusieurs reprises « Dieu vit que cela était bon ». C'est vrai s'il l'a vu. Donc, cette vérité-là, d'une manière nouvelle et plus admirable, a été manifestée. Alors il s'explique. Le bien, pour dire que c'est bon, le bien prend sa source dans la sagesse et dans l'amour. Et bon, ce qui est sage, ce qui est le fruit de l'amour, de la sagesse de Dieu. Donc, le bien prend sa source dans la sagesse et dans l'amour. En Jésus-Christ, le monde visible, créé par Dieu, pour l'homme, ce monde qui, lorsque le péché y est entré, a été soumis à la caducité, en Jésus, ce monde retrouve de nouveau son lien originaire, c'est-à-dire le lien qu'il avait au commencement avec la source divine de la sagesse et de l'amour. Donc, grâce à Jésus, c'est ça le mystère de la rédemption, on va creuser, hein, le monde entier retrouve ce lien qu'il avait au commencement avec la sagesse et l'amour divin. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà la preuve de l'amour. De même que dans l'homme Adam, ce lien avait été brisé, dans l'homme Christ, il a été de nouveau renoué. Alors, nous, c'est un langage qu'on a du mal à comprendre. Et d'ailleurs, il l'explique. Peut-être ne sommes-nous pas convaincus, nous, hommes du XXe siècle, par les paroles de l'apôtre, des nations, prononcée avec quelle éloquence entraînante sur la création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant et qui attend avec impatience la révélation des fils de Dieu sur la création qui a été soumise à la caducité. Peut-être que nous, d'aujourd'hui, on n'a pas ce sentiment qu'elle gémit dans les douleurs de l'évangile d'aujourd'hui, de la femme qui enfante. Peut-être qu'on ne se rend pas compte de ça. Il faudrait se rendre compte que la création tout entière gémit. Nous, on dirait, mais non, elle ne gémit pas, regardez-la. Le progrès immense jusqu'ici inconnu, qui s'est manifesté particulièrement au cours de notre siècle, dans le domaine de la mainmise de l'homme sur le monde, ne relève-t-il pas lui-même, et à un degré jamais connu, ne révèle-t-il pas lui-même, et à un degré jamais connu, cette soumission multiforme à la caducité. Même le progrès, il est soumis à la caducité. Les signes des temps. Le Conseil nous a demandé de lire les signes des temps. Eh bien, regardez le monde dans lequel vous êtes. Il est soumis à la caducité. Lui qui pourtant, dans le regard du Créateur, est bon. Il n'est pas fait pour passer. Il est bon. Dans le Christ, ce monde est appelé à participer à la rédemption des enfants des hommes. Alors regardez-le. Le signe, c'est que même le progrès, il y a le progrès, mais il y a aussi la caducité. Il suffit de rappeler ici quelques faits, tels que la menace de la pollution de l'environnement naturel dans les lieux d'industrialisation rapide. Bon, on est très fort, mais en même temps, voilà que la création se révolte. Ou les conflits armés qui éclatent et se répètent continuellement. On n'est même pas capable de mettre la puissance qui est en notre main au service de la paix. Ou encore la perspective de l'autodestruction. Non seulement on n'est pas capable de ne pas détruire les autres, mais en même temps de ne pas se détruire soi-même. Par l'usage des armes atomiques à l'hydrogène, aux neutrons et d'autres semblables. Enfin, le manque de respect pour les enfants dans le sein de leur mère. C'est quelques faits qui rappellent qu'alors qu'il y a progrès, il y a aussi des échecs effrayants. Le monde de l'époque nouvelle, le monde des vols cosmiques, le monde des conquêtes scientifiques et techniques, jamais atteintes jusqu'ici, n'est-il pas en même temps le monde qui gémit dans les douleurs de l'enfantement et qui attend avec impatience la révélation des fils de Dieu ? Oui, c'est de comprendre. Nous savons que le Christ, il est venu. Il est rédempteur du monde. On n'a pas qu'à sauver simplement Jean et Paul. On a à sauver le monde. Et donc il faut que nous, chrétiens, ça va être tout le message, puisque le Christ est monté au ciel, c'est à nous d'agir. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Les anges, aux apôtres. Il reviendra, mais ce sera pour la fin. Donc c'est à vous de faire l'entre-deux. Donc, au boulot. Oui. Oui. C'est la citation donc de saint Paul. Hein, et ça va être notre gloire, nous serons glorifiés, et par nous, le monde aussi. C'est ce que dit saint Paul dans le texte. Je savais bien que j'avais besoin de la Bible. C'est un très beau passage que là, il a glosé, n'est-ce pas ? Romains 8, c'est à propos de la résurrection. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Donc, 8, 18. Car la création, en attente, aspire à la révélation des fils de Dieu. Le passage que nous a cité le Saint-Père. Si elle fut assujettie à la vanité, non qu'elle l'eût voulu, mais à cause de celui qui y a soumis, sous-entendu l'homme, c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude, de la corruption, pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement, et non pas elle seule, nous-mêmes. Qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons. Donc, au fond, Jésus est rédempteur du monde. Donc, c'est toute la création qui doit être relevée. Elle qui a été soumise à l'esclavage. Elle porte les conséquences du péché. Eh bien, cette création, elle est faite, elle aussi, pour la gloire. Elle est faite parce que, à l'origine, Dieu l'a faite et elle était bonne. Et Jésus nous rappelle qu'elle est bonne. Et si elle est bonne, elle ne passera pas. L'ancienne mère passera, hein, comme dit l'Apocalypse. Plus de mère. J'espère qu'il y aura la mère au ciel. Et il y a une mère, elle sera comme une mère de cristal. Il n'y aura plus les méchants flots en furie, ce sera une mère complètement dominée par la grâce. C'est ce que je trouve si beau dans ce texte, c'est de nous rappeler que le Christ est venu sauver, racheter l'univers entier. Mais non pas sans nous. C'est ça le chapitre 3. Non pas sans nous. Il va falloir comprendre que lui, il nous a donné les moyens et maintenant, il faut passer aux actes. Alors donc, regardez bien cette création, elle-même gémit et attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Et là, on arrive à la deuxième partie. On a dit de la création, mais on va arriver au cœur de la création. Le Concile Vatican II, dans son analyse pénétrante du monde contemporain, a atteint ce point qui est le plus important du monde visible, à savoir l'homme. En descendant comme le Christ, l'Église, elle suit le Christ. Au plus profond des consciences humaines, en parvenant jusqu'au mystère intérieur de l'homme qui s'exprime dans le langage biblique et même non biblique par le mot « cœur ». Au fond, c'est le regard du Saint-Père sur le Concile, et il dit au fond, le Concile, ce qu'il a voulu, c'est de regarder l'homme. Quand vous regardez Gaudium et Spes, le document, le grand document, il y a deux grands textes au Concile, et les autres trouvent leur place entre deux, Lumen Gentium, Gaudium et Spes. Lumen Gentium, le mystère de l'Église, Gaudium et Spes, le monde auquel l'Église est envoyée. Et ce monde, c'est l'homme. C'est l'homme avec toutes ses richesses. C'est l'homme avec toutes ses faiblesses. C'est l'homme qui petit à petit, gémit dans les douleurs de l'enfantement. C'est l'Esprit Saint qui fait cette œuvre. Mais il ne la fait pas sans l'Église. C'est pour ça que c'est si beau dans le Concile, quand on le lit à la lumière du Saint-Père, au fond, de bien comprendre l'autoconscience de l'Église. Et l'autre, comme il va nous le dire, cette prise de conscience de l'autre, qu'est l'Église, qu'est le monde auquel l'Église est envoyée, il y a il y a, si vous voulez, l'Église et le monde, ils ont un dialogue à avoir. Et ce dialogue, il ne doit pas s'appuyer sur le passé, il doit vivre sur le présent. Il doit prendre son âme sur le temps présent, les signes des temps. Donc, l'Église d'aujourd'hui doit regarder le monde d'aujourd'hui et doit voir dans le monde les signes de l'œuvre de l'Esprit pour coopérer à cette œuvre. Hein? Et tout ce qui entrave l'œuvre de l'Esprit pour lutter, pour permettre à l'œuvre de l'Esprit. L'homme a un rôle dans l'œuvre de l'Esprit. Alors, le Concile, il a regardé l'homme et le cœur de l'homme qui lui est confié. En faisant ça, il n'a rien fait de plus que le Christ. Il n'a fait que suivre l'exemple du Christ qui est venu sauver l'homme. Donc, le Christ, rédempteur du monde, est celui qui a pénétré d'une manière unique et absolument singulière dans le mystère de l'homme et qui est entré dans son cœur. C'est donc à juste titre que le Concile Vatican II enseigne ceci. Et il cite deux passages de Gaudium et Spes qu'il va reprendre dans toute l'encyclique, donc il faudra les lire, on va les lire une fois, une bonne fois, essayer de bien les accueillir, parce que c'est là toute son encyclique. Donc, le Christ, il est venu pour le cœur de l'homme. Il est venu sauver l'homme. Il est venu, il s'intéresse au cœur de l'homme. Au corps aussi, puisque la résurrection nous est promise, hein, rassurez-vous. En réalité, voilà la citation, il y a deux citations du Concile, toujours Gaudium et Spes. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Si vous voulez comprendre l'homme, regardez le Christ. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. En Adam, il y avait déjà l'image du Rédempteur de l'homme. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même. Donc, en révélant le mystère de Dieu, révèle, manifeste à l'homme ce qu'il est. Et lui découvre la sublimité de sa vocation. Vous voyez ? En s'intéressant à nous, en s'intéressant à l'homme, Dieu nous montre qui est l'homme. Comme dit le psaume, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses cas ? Pour que tu t'intéresses à lui ? Toi qui es derrière les étoiles, là-bas. Comment est-ce que tu peux t'intéresser à cette fourmi qui... Et deuxième passage, image du Dieu invisible, le Christ, est l'homme parfait qui a restauré dans la descendance d'Adam, c'est nous, la ressemblance divine altérée dès le premier péché. Donc, là, ce qu'affirme le Concile, affirmation de foi, qu'il a restauré la ressemblance divine altérée par le péché dans l'homme. Parce que, en lui, la nature humaine a été assumée, mais non pas absorbé. Par le fait même, cette nature a été élevée en nous aussi à une dignité de fils, à une dignité sans égale. Donc, en Jésus, d'abord, en nous ensuite, qui sommes son corps, la nature humaine a été élevée à une dignité qu'elle n'a jamais eue. Car par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. C'est ça le mystère du corps mystique. Jésus, il y a une plus grande unité entre le Christ et moi qu'entre ma tête et ma main. Il y a une plus grande unité entre le Christ et chacun de nous qu'entre les membres d'un même corps. Le corps est une image de cette unité. Et cette unité divine. Donc, quand Jésus s'est fait homme, il s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. C'est pas... Il va l'expliquer, hein. C'est pas tout homme de façon générale. C'est pas la nature. C'est chaque homme. Et il y a un très beau passage où il dit non. Celui-là qui est né dans le sein de sa mère. Non, il veut montrer l'individualité. Il a travaillé avec des mains d'homme. Il a pensé avec une intelligence d'homme. Il a agi avec une volonté d'homme. Vous voyez tout ce qu'il faut aimer dans l'homme. Les mains, l'intelligence, la volonté. Il a aimé avec un cœur d'homme. Si lui a embrassé ça, combien nous devons l'embrasser aussi? Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Il est le rédempteur de l'homme. Ça, c'est la conclusion du pape. Il est le rédempteur de l'homme. Il est le rédempteur du monde. Il est le rédempteur de l'homme. Et donc, ce numéro 8, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'accueillir. C'est rédempteur de tout l'univers, toute la création. Et dans la création, d'une façon unique, de l'homme. Donc, l'Église, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie, l'Église doit travailler à cette même œuvre. Vous n'avez pas le droit, les grands patrons, ou futurs, en herbe, ou en graines, ou en actes, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'univers sans comprendre que vous avez une mission de le tourner, cet univers, dans le dessein de salut. Le monde n'a pas le droit de laisser aller la pollution. Le monde n'a pas le droit de laisser ces choses-là. Il y a quelque chose qui est contraire à la vocation même de l'Église de laisser ça, de se taire. Parce que Jésus, je le crois, c'est ma foi. Vous allez voir que le pape, il a des paroles extrêmement fortes pour le dire. Il a sauvé l'univers. Et moi, je n'ai pas le droit de prendre un autre chemin que ça.